L'interview Maïmo, Corentin Brabant, sur Radio Immo.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Immo, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'interview. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet central pour tous les professionnels de l'immobilier, l'assurance, bien sûr, mais aussi la conformité, l'innovation produit, la qualité de service et surtout la capacité d'un assureur à accompagner les mutations du marché. J'ai le plaisir aujourd'hui dans l'interview de recevoir Sandrine Ossé, membre du directoire et directrice compliance et marketing de Sada Assurance. Bonjour Sandrine.
Bonjour Corentin.
Alors merci d'avoir accepté notre invitation et là, on est en plus, merci de nous accueillir parce qu'on est dans ton bureau chez Sada, à côté de la gare de Nîmes, en plein cœur de la ville. Donc, merci de nous accueillir chez toi.
Avec plaisir.
Alors, avant de parler de Sada Assurance, dans l'interview, on aime bien aussi un petit peu revenir sur le parcours de nos invités et de mieux les connaître. Alors, je vais la faire assez courte, mais ce qui est important, c'est qu'après des études de droit, tu as débuté ta carrière chez Area Assurance à Martigues pendant un an et tu as rejoint Sada en 99, notamment pour la gestion des dossiers complexes, notamment sur les sujets AZF. Tu as ensuite évolué au sein de Sada et tu as exercé différentes responsabilités, dont l'avant-dernière en tant que directrice compliance et marketing. Et depuis mai 2004, tu es membre du directoire de Sada Assurance dans le cadre de la nouvelle gouvernance mise en place par le groupe. Tu occupes également des fonctions de direction autour de la compliance, du juridique et du marketing, au cœur de la transformation de l'entreprise. Alors déjà, bravo, parce que c'est quand même un beau parcours. Mais ce qui nous intéresse de savoir, c'est quand tu regardes un petit peu dans le rétroviseur, qu'est-ce que tu retiens, toi, personnellement, de ce parcours ?
Bien, écoute, je retiens qu'en réalité, rien n'est impossible. Quand j'ai terminé mes études de droit, j'avais envie de faire de l'assurance et de toucher à tout. Du produit, de l'indemnisation, de la souscription. Et quand je suis allée chez Prance Assureur ou à l'occasion du master que j'ai passé, on m'a expliqué qu'il fallait faire des choix dans la vie, qu'on pouvait pas tout être et que j'aurais la grande chance de faire du produit d'assurance en toute fin de ma carrière si j'étais bien sage et si j'avais bien compris comment ça fonctionnait. Et puis j'ai eu la chance immense de rencontrer Sada Assurance. Alors maintenant, ça remonte à bien loin, hein, 1999. Et le fait que ça soit une société à taille humaine, elle permet cette polyvalence et cette évolution en interne, qui effectivement m'a fait partir de ce qui me fait vibrer dans l'assurance, la gestion, l'indemnisation, être auprès des assurés lésés, intervenir dans les sinistres graves et les sinistres événementiels. Mais ça m'a permis aussi de repartir un peu sur mes premières amours juridiques au travers de la conformité, avec des sujets de compliance qui, chez les assureurs comme chez les banquiers, sont toujours un petit peu rugueux et touffus, mais très intéressants. Et puis, quand un poste marketing s'est ouvert, je me suis dit que c'était le moment de voir si les rêves se réalisaient. Et alors que j'étais un peu un ovni parmi les candidats qui ont postulé à l'époque, je pense que mon amour du client et mon envie de les écouter s'est fait sentir, puisque ça m'a permis d'avoir effectivement ce poste un petit peu le mariage de la carpe et du lapin. Quand on dit marketing et compliance, en règle générale, on a l'impression que c'est un peu éloigné. Sauf que les assureurs ne vendent pas des boîtes de petits pois, ils ont bien des produits d'assurance, sont des produits de nature juridique, où pour moi, le marketing et la compliance doivent marcher de pair. Donc, c'est ce que j'ai fait depuis 2019, et j'ai juste adoré aussi constituer une équipe de marketing qui d'ailleurs a suivi un petit peu, on va dire, mon mindset, puisqu'en fait, j'ai une grande équipe qui s'appelle la direction expérience et qui mixe du marketing, du juridique, de la gestion des risques, du RSSI. Donc, on s'amuse énormément sur des sujets très, très divers. Et puis, la dernière marche du podium, ça a été effectivement en mai 2024, quand j'ai candidaté pour rejoindre le directoire de cette entreprise qui fait vraiment partie de moi et où j'ai été reconnue par le conseil de surveillance comme méritant cette fonction. Donc je suis aujourd'hui, je fais partie de l'équipe dirigeante d'une compagnie d'assurance en ayant fait des études de droit et en faisant du marketing mon fer de lance avec toujours mon petit leitmotiv qui est addict à la satisfaction client. Et je pense que c'est ce qui lie en fait la totalité des activités de Sada.
Oui, on va y revenir justement, cette satisfaction client. On voit que c'est très cher aussi à toi, mais à tous les collaborateurs chez Sada. Alors pour ceux qui nous écoutent, comment est-ce que tu pourrais nous présenter Sada Assurance aujourd'hui dans les différents métiers?
Alors, merci de me donner l'opportunité de présenter Sada, parce que effectivement, on fait pas partie des majors. Et il y a, en réalité, pas mal de monde qui est assuré chez Sada sans le savoir. Pourquoi ? Parce que Sada Assurance, elle est particulièrement singulière. Hein. Déjà, on a un siège social à Nîmes, comme tu l'as dit tout à l'heure, à deux pas des arènes, à côté de la gare TGV. On assure exclusivement des biens immobiliers, c'est notre cœur de métier. On travaille avec des experts dans l'immobilier sur des produits multi-risques immeubles et de garantie des loyers impayés. Et on distribue seulement par la voie de courtiers d'assurance. Et c'est là où, en réalité, la plupart des gens qui sont assurés chez Sada l'ignorent, parce qu'ils connaissent leurs courtiers, les plus grands noms du marché, mais pour autant, ils ne sont pas allés regarder sur leurs conditions particulières qui était l'assureur porteur du risque. Donc, Sada Assurance, on est une compagnie avec un montant de plus de 250 millions de chiffre d'affaires en 2025, 170 collaborateurs. On est tous ici au siège à Nîmes, hormis une délégation parisienne qui compte quelques collègues chez Sada. Et nous sommes la propriété unique d'un actionnaire qui est le groupe de VK, qui est un groupe allemand avec un siège social à Cologne et qui est une émanation en fait de la mutualité des cheminots allemands. Donc avec un esprit très mutualiste, très l'humain au cœur, qui nous soutient très fortement et avec qui on a des liens de grande proximité. Que dire de plus de Sada ? Nos critères différenciants, de par notre taille, c'est évidemment la proximité qu'on doit apporter dans les produits, la proximité dans les services, la proximité dans le relationnel, l'expertise, parce que avec la taille que je viens d'évoquer, évidemment, on ne fait pas d'auto, on ne fait pas de risque de masse. D'ailleurs, nous en faisions, on a pris la décision de ne plus en faire, ce qui est aussi singulier sur le marché. Donc, notre but, c'est d'être vraiment spécialiste des produits que nous proposons. Et puis, tout récemment, suite au changement de gouvernance aussi, un nouveau plan stratégique avec de nouvelles ambitions. Parce que on est sur un marché qui se transforme, si j'en parle aux administrateurs de biens, aux gestionnaires qui nous écoutent, on est tous les jours confrontés au sujet de durabilité, que ça soit de durabilité économique, que ça soit de sujet climatique,
matériaux.
Exactement, la durabilité des matériaux. Et puis, la durabilité aussi de cette structure humaine, de conserver nos collaborateurs, de les faire évoluer et de mettre en place la transformation dans une entreprise qui va avoir 60 ans. Mais qui pour autant n'est pas une vieille grand-mère, mais néanmoins, la transformation et l'innovation qu'on veut définir chez Sada comme une innovation de transformation utile versus tout ce qui peut être un petit peu juste de surface ou washing sur les sujets d'innovation qu'on rencontre parfois sur l'IA d'ailleurs. On essaye vraiment de faire que tous ces sujets de transformation et d'innovation s'appliquent à nos cas d'usage métier.
Alors donc justement, ces grands chantiers prioritaires pour 2026, est-ce qu'il y en a certains que tu peux évoquer concrètement, comment ça se traduit aussi au sein de Sada, ces priorisations 2026?
Ouais, c'est passionnant. Alors 2026 s'inscrit dans un plan quinquennal, c'est pas beau parce que ça fait un peu soviet suprême, mais c'est dans notre plan engagement 2030. Donc évidemment, à chaque année sa mission. 2025 a été l'année de la transition, puisque suite au changement de gouvernance, on a eu besoin de faire un état des lieux de l'existant, de faire un petit peu ce que nous on appelle notre check de réalité. On dit qu'on est les meilleurs, ok, mais on en est où véritablement? Où est-ce qu'on doit aller? Quels sont les défis qui vont se présenter à nous? 2026, c'est une année absolument fondamentale parce que c'est l'année de la transformation. Donc cette année de la transformation, elle est super importante parce qu'elle revêt évidemment des aspects organisationnels, des aspects de positionnement marché, des aspects projet. Donc on essaye de la prendre par finalement tous les items de engagement 2030 qui sont pas très compliqués, qui semblent basiques, mais à mettre en œuvre, ça nécessite quand même un peu de réflexion. Notre première ambition, c'est de devenir les numéro un du service client en 2027. Donc ça, c'est très important parce qu'on a bien vu que, y compris nos courtiers, le marché a été extrêmement chahuté par des revers de rentabilité des produits, par des tarifications un peu, on va dire, variables, pour être poli, et donc tout le monde n'a pas forcément eu la compréhension fine. évidemment, on a tous compris que sur la surprime 4 nattes, on était passé de 8 à 20 et que du coup, c'était plus cher. Par contre, ce qu'on a assez peu compris, c'est que potentiellement, les assureurs immeubles avaient une rentabilité moins bonne du fait des nouvelles conventions mises en place avec les multirisques habitation et que bah, ça nécessitait aussi d'être revu. Mais ce qui compte vraiment pour SADA, c'est en réalité que tous ces éléments techniques, nous les maîtrisions, mais nous n'ayons pas à les faire payer ou à les expliquer en détail au client. Le client doit venir chez SADA pour les sujets de service, d'expertise, de connaissance de son risque. Et évidemment, au regard de notre taille, tu t'en doutes bien, on n'est pas sur une campagne de pricing. On fait pas voilà, du démarchage prix. On veut vraiment se démarquer par la qualité. Et c'est vrai que le check de réalité qu'on a fait nous permet aujourd'hui de voir où est-ce qu'on veut aller. Donc, on a des objectifs très clairs hein, en termes d'émissions de devis, de règlement de sinistres, mais aussi, même si ça paraît basique, de réformes sur la téléphonie, parce que la joignabilité, c'est fondamental. Je reviens sur le sujet d'innovation utile parce que, voilà, envoyer des mails, envoyer des Teams, faire des réunions, tout ça, c'est très bien. Mais en interne, c'est pas forcément ce qui porte vraiment la valeur et la création de valeur pour le client. Donc, on va beaucoup réfléchir autour de l'efficience aussi. Donc ça, c'est vraiment sur notre aspect Zoom client, courtier et client final. Donc on sait, hein, leurs attentes, c'est la proximité, la réactivité et surtout la pédagogie, l'anticipation, pouvoir savoir pourquoi on change le tarif, pourquoi on change les garanties et pouvoir aussi profiter de notre expertise pour présenter les meilleurs produits. Chez SADA, aujourd'hui, on a une capacité de dire, on sait que les courtiers ont des conditions dérogatoires pour chaque courtier, qu'on appelle les intercalaires de garantie. Et c'est très bien, ça permet la création de valeur du courtier par rapport à ses propres clients. Aujourd'hui, chez SADA, sans émousser de secret, on sait quelles sont les garanties des intercalaires qui marchent réellement dans leur vraie vie et qui sont là pour quand l'assuré a un véritable problème et qui n'est pas garanti. Donc, on veut aussi faire montre de toute cette expertise pour proposer des produits qui sont, une fois de plus, utiles. Ça, c'est sur le sujet de la clientèle. Évidemment, on a un sujet de rentabilité. Hein. Bon, c'est là, on a une entreprise commerciale. Je veux dire, je pense que là, je défore aucun sujet. Et puis, il y a ce sujet qui va avec la rentabilité, qui est le sujet de durabilité qu'on évoquait tout à l'heure et qui va s'inscrire sur plusieurs items. Quand on parle de durabilité économique, je peux faire un rattachement avec le sujet de tarification. Parce que si je tarifie mal aujourd'hui, eh ben demain, je vais pas être à l'aise pour régler mes assurés. Et finalement, bah, ça va causer un problème. Je peux rattacher la durabilité, comme on l'a déjà dit aussi, au sujet de l'humain au cœur chez SADA. Parce qu'être durable, c'est reconnaître les interlocuteurs. Bonjour, allô, je suis Sandrine Ossé, comment je peux vous aider? On est là pour beaucoup, depuis plus de 15 ans. On se dit que les courtiers ont certaines habitudes de travailler avec nous personnellement. Et c'est une véritable valeur différenciante. Durabilité environnementale, évidemment, c'est ce que tu disais aussi. On a eu notamment les obligations de la CSRD qui a un peu fait des avancées et des reculs, donc où beaucoup d'assureurs ont hésité à y aller. Nous, c'est vrai qu'on a fait notre analyse de double matérialité et qu'en gros, on lâche rien sur le sujet parce que c'est pas parce que tout d'un coup, il y a un contexte international différent que par hasard, les réserves d'eau et autres se sont régénérées par magie. Donc, on croit beaucoup aussi à ce sujet-là. Et puis, il ne faut pas oublier que sur la pratique immobilière, c'est quand même un secteur extrêmement énergivore. C'est... Et aussi fournisseur de, voilà, de des blés et autres qu'il faut recycler. Donc, on ne peut pas ne pas être à cette écoute-là. Et c'est notamment dans ce cadre-là qu'on participe activement à Vaillémo et qu'on est très, très attentif à ce qui s'y fait. Et toujours dans l'utilité par rapport à des expérimentations très concrètes.
Et puis on voit que vous le faites avec des partenaires, avec des clients. Et justement, chez SADA, vous innovez très rapidement. C'est aussi l'avantage de la taille, l'agilité que vous avez. Et vous innovez avec des offres Certiloc, j'ai plus les noms en tête, hein, tu m'excuseras, mais dédiées au monde de la copropriété et de la location. Ce qui m'intéresse, c'est comment justement vous créez ces offres, d'où ça vient? Ça vient du terrain, ça vient des collabs. Comment est-ce que vous faites chez SADA? Parce qu'on sent qu'il y a une ADN aussi très forte en termes d'innovation.
Alors, chez SADA, on a une phrase qui dit « Si la demande d'innovation ne vient pas du client, c'est pas une demande d'innovation ». Donc, pour revenir sur celle que tu cites, qu'on a sortie effectivement il y a quelques années, On a créé le produit Certilog. Certilog, c'est quoi? C'est une possibilité de faire un agrément sur l'entrée d'un locataire dans les lieux pour certifier ensuite au bailleur qu'il sera payé sans qu'on aille à nouveau regarder les éléments de revenus de son locataire et qu'au dernier moment, alors qu'il a payé la prime pendant plusieurs années, on dise « Ah ben non, monsieur, on est vraiment désolé, finalement, on n'avait pas vérifié ». Donc, ce sujet-là, il vient sur un irritant majeur des copropriétaires d'ailleurs. Hein. Déjà, l'assurance loyer impayé, c'est une option. Si en plus, on prend l'option et à la fin, il se trouve qu'on n'est pas garanti, l'effet déceptif, il est énorme. Et on sait aussi que en termes de logement, d'accession au logement et aux locations aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Ouais. Donc, c'est aussi dans cette cinématique d'accessibilité au logement, avec donc aussi un aspect sociétal, qu'on a créé Certilog pour dire, voilà, aujourd'hui, on peut avoir différents types d'agréments, mais l'agrément donné directement par la compagnie d'assurance qui est solvable, qui va régler demain, c'est un véritable plus. En plus, dans des délais qui sont de la journée ou de la demi-journée, donc on va dire que c'est pas nous qui reculons les délais de l'entrée dans les lieux du locataire. Donc ça, c'est un sujet qu'on a pris à bras-le-corps. Deuxième sujet qui me paraît très intéressant, bon, au surplus de ce que je cite par la MRI, c'est une garantie qui est vraiment connue et plus classique. Mais par exemple, on voit qu'aujourd'hui, au regard de l'inflation, des coûts de travaux et des travaux de durabilité aussi, les charges de copropriété, ça devient un véritable problème pour les copropriétaires et à tel point qu'on se rend compte que le pourcentage d'impayés de charges est quand même en croissance non négligeable. Donc chez Sada Assurance, on propose un produit d'avance de charges qui a le critère différenciant par rapport aux autres, c'est que on va pas se contenter de faire le recours contre le copropriétaire défaillant. Avant de faire le recours, on va avancer la somme, ce qui permet aux travaux de se faire, aux autres copropriétaires de continuer à entretenir leurs biens. Et aujourd'hui, c'est majeur, on voit bien, puisque en plus, c'est un cercle vertueux, puisqu'une copropriété bien entretenue, c'est une copropriété assurable, avec moins de sinistres pour demain.
Alors effectivement, tu parlais d'innovation, on voit Sada s'implique toujours, on parle des sujets de Maïbo hein, dans toutes les expérimentations, je sais que vous explorez le sujet des maquettes numériques, les sujets de l'IA utile, hein, pas que l'IA LLM. Et je sais que récemment, vous avez rencontré une start-up qui s'appelle Ocoa. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que vous faites aujourd'hui avec Ocoa ou l'idée de ce que vous avez envie de tester, d'expérimenter?
Ouais, avec plaisir. C'est un véritable coup de cœur, donc ça fait plaisir de le partager. Donc déjà, pour remettre dans le contexte, chaque année, on participe chez Maïmo à cette journée d'écoute de toutes les startups qui ont envie de collaborer avec un membre de Maïmo. Alors là, c'est toujours absolument passionnant, mais pour être clair, la verticale de l'assurance, c'est pas toujours celle qui fait le plus rêver les startups. Donc il y a des choses absolument merveilleuses, mais c'est relativement peu volumineux sur la science. Et là, en réalité, une fois de plus, on part de la voie du client, c'est-à-dire un assuré multirisque habitation, qui est un assureur tout à fait correct, qui a un dégât des eaux, mais auquel tout d'un coup, on va demander de donner un devis, de donner la facture de réparation de l'origine de la fuite, de contacter son syndic. Très bien, et très normal, il faut bien constituer un dossier pour être payé. Sauf qu'aujourd'hui, entre le boulot, le télétravail, les courses, les déplacements et autres, c'est vraiment une charge mentale de plus. Aussi, la proposition d'Ocoa, c'est justement d'alléger l'assuré de sa charge mentale en constituant à la place de l'assuré le dossier qui sera pertinent pour l'assureur, allant même jusqu'à une réparation en nature, si c'est le choix de l'assuré, évidemment. Alors, il faut pas oublier que l'assuré, il reste tout à fait libre de prendre le service ou de pas le prendre, c'est sa partie du dossier. En revanche, moi, je suis intimement persuadée qu'alléger la charge mentale des assurés, notamment en multirisque habitation. En auto, les gens seront à peu près rodés, ils remplissent, ils savent qu'il y a des garagistes agréés. Le dégât des eaux, c'est la catastrophe, c'est 90% des dossiers. Dans 80% des cas, c'est même pas la peine de mandater parce que voilà, il faut juste checker deux points. On va accélérer d'une part la satisfaction, c'est évident. Et puis nous, assureurs, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'avoir une clôture plus rapide des dossiers parce que mine de rien, ce qui est pas en cours, ça génère de la charge mentale aussi en moins chez vos collaborateurs et la charge de provisionnement en moins. Donc aujourd'hui, on met en place un test avec Ocoa et on est absolument impatients d'avoir les premiers retours de nos assurés en multirisque habitation.
Et que ça puisse vous aider aussi à accompagner vers la qualité relation service client numéro 1 yes. en 2027, j'imagine. C'est hyper intéressant de voir à quel point il y a cette prise de conscience de l'humain. On voit dans la relation que vous avez avec vos clients, avec vos courtiers. Et j'avais une question aussi sur l'accompagnement. Tu parles de transformation. Oui. Les 170 collaborateurs, aujourd'hui, comment est-ce que vous les accompagnez dans cette transformation-là quotidiennement?
Alors, ta question est cruciale et elle fait mon quotidien en ce moment. Déjà, on est parti d'un postulat, c'est qu'une transformation où les collaborateurs sont pas embarqués, c'est une transformation qui ne se fera pas. Deuxième sujet, c'est que énoncer des vérités sur un PowerPoint, ça ne provoque pas la transformation. Je vais donner un exemple très concret, c'est ce qu'on a fait en février. On a organisé un séminaire de 2 jours avec tous nos collaborateurs. Donc autant dire, et je sais que des entrepreneurs nous écoutent, quand on est 170 personnes, 2 jours mobilisés, c'est quand même un investissement assez important. L'idée, c'était quoi? C'était évidemment de leur donner nos objectifs 2026, mais pas seulement, d'assurer la pédagogie et la clarté sur ce qu'on déclinait, mais aussi par un QR code, leur permettre de poser leurs questions sur ce qu'ils comprenaient, ce qu'ils comprenaient pas, potentiellement ce qu'ils critiquaient. Il y avait évidemment pas de filtre sur le QR code. Et puis, on avait également des focus avec des ateliers. L'après-midi du premier jour, justement, sur la compréhension et l'assimilation de ce qu'on avait décliné. Et le lendemain après-midi, sur la projection de comment réaliser les objectifs. Pour faire simple, on a eu 222 questions auxquelles le directoire a dû répondre. On a répondu avec plaisir. On a d'ailleurs fait une session vraiment en face à face pour répondre à la majorité des questions. Et puis, on a fini dans une autre itération parce que 222 questions, ça fait quand même un peu de temps à répondre. Mais c'était très intéressant. Et on a eu des collaborateurs, puisqu'on a sondé leur satisfaction à eux aussi, globalement très satisfaits sur les aspects de compréhension et de pédagogie. Et en gros, leur seul axe d'amélioration, c'était que les ateliers étaient trop courts. Mais moi, j'ai envie de te dire, ouais. Si c'est ça, ouais. Ça me va ouais. Parfait. Ouais. Et pour finir de boucler la question comment est-ce qu'on fait la transformation, c'est vrai que l'année dernière, dans la phase de transition, on a beaucoup travaillé avec des externes qui nous ont expliqué comment mener la transformation. Il y avait des techniques agiles, des typologies d'ateliers, des façons de parler aux gens, de créer le mindset, etc. Et par exemple, en juillet 2025, lorsqu'on a fait un séminaire manager, il a été animé en externe. Cette fois-ci, on s'est dit pas du tout. Sada est tout à fait capable, avec ses propres ressources, de mener ce séminaire. Et on a fait accompagner une équipe de 10 facilitateurs avec un mix de marketing, direction des systèmes d'information et ressources humaines. À tous les types d'ateliers, les Troika Consulting, les Mind Map, etc. Et on a mené en totale autonomie ces 2 jours, avec un gros investissement en interne. Et je pense que, y compris pour les collaborateurs qui participent, c'est beaucoup plus prégnant et vecteur d'investissement de voir que ce sont des gens qui comprennent leur métier, qui font aussi le reporting des ateliers qui sont menés. Donc, on a mis en place les fondements de la transformation. On avait aussi des structures qui fonctionnaient d'ores et déjà comme Bulinov et Bulinov Training, qui sont nos structures d'innovation interne et aussi de partage d'expériences. Et puis, on met en place aussi des rituels mensuels. Chez Sada, on a la grande chance d'avoir un télétravail à la carte et aussi un accord de flexibilité. Mais 2 mardis par mois, on se retrouve tous au siège. Le premier lundi du mois, qui est plutôt un sujet où on va parler de thèmes corporate. Et le 3e mardi du mois, qui est le mardi de la transformation. Et le but, c'est de prendre l'opportunité d'être en présentiel, évidemment, pour pouvoir continuer sur les sujets verticaux du plan d'action, de mener ce type d'atelier et aussi de continuer à élargir nos populations de facilitateurs.
On voit que vous êtes quand même bien embarqué. On voit que les choses sont claires. L'humain est accompagné. La stratégie est efficace. On arrive au bout de cet échange et on aura envie de parler encore pendant des heures. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Sada pour les 5 prochaines années?
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Sada pour les 5 prochaines années? C'est véritablement Moi, mon cœur d'entrepreneuse dirait que les efforts de nos collaborateurs sont reconnus à l'extérieur.
Oui.
Cette histoire vraiment de perception, d'être numéro un de la qualité de service, me tient vraiment à cœur. Tout comme c'est le cas pour les collaborateurs, mais on est dans un métier où les filtres sont parfois compliqués. Donc, moi, je trouve que celui-là d'objectif, s'il y avait un vœu à faire pour Sada, c'est celui qu'on va réaliser une fois de plus. Et je pense que toute l'équipe aura bien mérité.
Ben en tout cas, merci beaucoup Sandrine pour cet échange et merci pour cette authenticité et de nous dévoiler un petit peu le cœur de Sada. On retient effectivement que Sada, en tant qu'assureur spécialisé, ne se contente pas d'indemniser. Il accompagne ses clients, il est soucieux de la relation client, de ses collaborateurs, de tous les professionnels de l'immobilier, en innovant en permanence. Donc un grand merci de nous avoir partagé tout ça. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Retrouvez maintenant cette émission en podcast et sur nos plateformes habituel. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de l'interview.
L'interview MyImmo, Corentin Brabant sur Radio Immo.